L'État, c'est vous, le quart d'heure mensuel de Françoise Souliman, préfet d'Eure-et-Loire. Bonjour à toutes et à tous, l'État, c'est vous. Je vous ai présenté comme chaque mois par votre serviteur Christophe Jubien. Deux sujets au menu de l'actualité. En seconde partie d'émission, nous évoquerons le tout dernier concours national de la résistance et de la déportation dont la cérémonie de récompense s'est déroulée très récemment en présence de l'ancien résistant Henri Ramollet. Mais place tout de suite à l'actualité, et l'actualité malheureusement, c'est la sécheresse. Compte tenu de la sécheresse qui sévit actuellement, le préfet d'Eure-et-Loire vient de prendre ses premiers arrêtés de restriction. Françoise Souliman s'en explique aux côtés de Guillaume Baron, directeur de la DDT d'Eure-et-Loire.
On a eu un hiver à la fois peu pluvieux, un mois de mai même étonnamment peu pluvieux, et puis des températures élevées, puisqu'on est à moins 29 mm à peu près de la moyenne de ces six derniers mois par rapport aux années précédentes. Donc effectivement, ont été décidées des mesures qui soient à la fois des mesures préservant la quantité d'eau, hein, vous l'avez dit, mais aussi la qualité d'eau, parce que la sécheresse entraîne aussi une baisse de qualité de l'eau. Et nous avons donc souhaité que l'ensemble de la charge de ces restrictions soit portée sur l'ensemble des usagers de l'eau, à savoir les utilisateurs, évidemment, mais les utilisateurs pour, j'ai envie de dire, leur bien-être. Alors, c'est arroser les plantes, c'est pas un bien-être, mais c'est quand même voilà, moins important que pour les agriculteurs qui sont, eux, tributaires de l'eau, ou pour les collectivités locales qui ont besoin de remplir des piscines pour des jeux, etc., et pour pouvoir faire vivre des loisirs de qualité. Donc voilà, toutes ces mesures vont dans ce sens-là et vont être égrenées dès le 1er juin pour une durée de 3 semaines, avec une clause de revoyure vers le 21 juin.
Je me tourne vers le directeur de la direction départementale du territoire. Il y a une forme d'inégalité territoriale, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a des rivières qui sont, qui se portent plutôt bien, puis d'autres qui sont franchement aux abois.
Oui. Donc, on se rend compte qu'on a eu un déficit en pluviométrie, notamment dans le secteur du Perche, hein, entre Châteaudun et Nogent. On voit qu'on a un déficit marqué de nos cours d'eau, hein, qui sont impactés, dont le débit à l'heure actuelle est inférieur à 30% de la moyenne. Et des situations qui ont amené certains cours d'eau à passer directement en situation de crise. Hein. Donc,
il y a trois paliers, si j'ose dire.
Voilà, il y a trois niveaux, effectivement. Hein. Donc, on a le niveau d'alerte, le niveau d'alerte renforcé, le niveau de crise, le niveau de vigilance. Hein, et puis, on va dire qu'on a deux bons tiers du département qui sont concernés par un niveau d'alerte renforcée ou de crise.
Alors, ce qui est en situation de crise, c'est autour de Chartres, hein, plusieurs communes.
Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est presque habituel, puisque si l'année dernière et l'année précédente avaient été exempts de cette problématique, 2019 a été, comme 2012, une grande année de sécheresse. Et c'est effectivement là où il y a des captages, c'est-à-dire autour de Chartres, où effectivement les mesures sont les plus rapides à prendre, et donc où nous avons, en concertation avec la profession agricole, fait une expérimentation pour les 3 semaines à venir, c'est-à-dire que une soixantaine d'exploitants qui utilisent cet approvisionnement en eau vont réduire de 10% leur prélèvement sur une période de 3 semaines, avec une clause de revoyure au bout de 3 semaines pour voir comment se reconstitue aussi cette quantité d'eau. Est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, est-ce que ces 10% sont suffisants ou pas suffisants. C'est un travail que nous faisons évidemment dans l'urgence, mais que nous souhaitons maintenant travailler tout au long de l'année avec le président de la Chambre d'agriculture. Il a accepté ma proposition. J'ai souhaité que soit mise en place un groupe d'études sur les usages de l'eau, qualité et quantité, avec l'ensemble des professionnels, des collectivités locales et les services de l'État, pour pouvoir travailler dès maintenant en profondeur et non pas réagir comme on le fait malheureusement aujourd'hui, mais comme on le fait partout souvent, c'est-à-dire s'en préoccuper au mois de mai, alors qu'il faudrait qu'on s'en occupe du 1er janvier au 31 décembre.
C'était Françoise Souliman, préfet d'Eure-et-Loire, et Guillaume Baron, directeur de la DDT du département. Les mesures de restriction concernent évidemment aussi l'arrosage des jardins privés. Pour les niveaux d'alerte simple, il est interdit d'arroser de 9h à 19h. Pour les niveaux d'alerte renforcée, il est interdit d'arroser de 8h à 20h. Et pour les niveaux crise, eh bien, il est tout simplement interdit d'arroser son jardin privé. L'intégralité des arrêtés est à retrouver sur le site de la préfecture. Mercredi dernier, les élèves participant au concours national de la résistance et de la déportation ont été récompensés en présence de l'ancien résistant Henri Ramollet. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de Lignery, ce siège de la préfecture d'Eure-et-Loire. 7 classes de collège et de centre des apprentis, ainsi que 3 lycéens et 9 collégiens ont été récompensés. Ce concours a été initié pour la première fois en 1961 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Le concours de la résistance peut être réalisé individuellement ou en groupe. Cette année, le thème était la fin de la guerre, les opérations, les répressions, les déportations et la fin du Troisième Reich. Après la cérémonie, nous avons interviewé le premier prix des collèges. Il s'agit d'Anaël Van Hussen du collège Les Petits Sentiers de Lucé.
Alors en fait, c'est mon professeur d'histoire géo, monsieur Dubois, qui m'a proposé. Et donc moi, j'ai tout de suite accepté parce que je me suis dit pourquoi pas. Puis c'est une période quand même sur laquelle on a beaucoup travaillé cette année. C'est la Seconde Guerre mondiale, c'est assez important dans le programme de 3e et ça m'intéresse beaucoup. Et donc on a fait des heures de préparation avec lui, il nous a fait des cours en plus. Et on s'est lancé et 2 heures d'épreuve et je suis très très contente d'être là. C'est vraiment chouette.
De quoi vous avez parlé dans votre devoir, entre guillemets ?
Alors, on a beaucoup parlé, c'était dans le sujet, donc on a parlé beaucoup des opérations dans le but de libérer la France fin 44 et début 45. Je me rappelle aussi que j'ai parlé, il y a pas mal eu des massacres en France par les nazis, donc, notamment le massacre d'Oradour-sur-Glane que j'ai mentionné. J'ai parlé d'Henri Ramollet aussi, donc j'étais très contente qu'il soit là aujourd'hui. Et globalement, c'est plutôt ça, j'ai aussi parlé des opérations militaires et du débarquement.
Cette période, qu'est-ce qu'elle vous raconte en fait ? Qu'est-ce que...
Alors, c'est une période dont on a toujours entendu parler, vous voyez, depuis qu'on est petit, pas que notre génération, je pense. Et en fait, de la voir en classe, ça me touche beaucoup, vraiment. D'entendre le témoignage d'Henri Ramollet, justement, c'était très très émouvant. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à le commémorer. C'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Vraiment, c'est important, je trouve.
Un grand bravo à Anaël Van Hussen, premier prix des collèges du collège Les Petits Sentiers de Lucé. À l'occasion de cette cérémonie du concours national de la résistance et de la déportation, le directeur de cabinet du préfet, Yanis Bouzard, a prononcé un discours remarquable. D'où lui venait cette inspiration ? Je suis allé lui poser cette question après la cérémonie.
À mon sens, la question de l'entretien de la mémoire est absolument fondamentale. D'abord parce qu'elle permet aux jeunes générations de s'approprier une mémoire qui nous est commune. D'autre part parce qu'elle nous permet aussi de mettre en valeur l'histoire de notre département, qui est un département d'histoire. Trop de gens l'ignorent. Un département qui naturellement se caractérise par la figure de Jean Moulin, mais aussi de combats, de figures historiques qui, au premier rang celle d'Henri Ramollet, qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui était un grand résistant, mais qui aujourd'hui nous anime et nous permet d'appréhender le présent, toujours avec cet esprit de mémoire.
Alors cette mémoire, la mémoire de cette époque, finalement, c'est une conjugaison de mémoire au pluriel, parce qu'il ne faut pas oublier non plus la mémoire de la défaite. On en parle jamais, mais vous l'avez dit, ce désastre, cette débâcle de 40 qui est à l'origine de tout.
Absolument, absolument. C'est une mémoire de la défaite qui aujourd'hui est justement trop facilement oubliée, passée sous silence, dans la mesure où on ne parle finalement que de la défaite comme d'un phénomène global. Or, en particulier en Eure-et-Loire et partout en France, il y a eu des combats. Les Français ne se sont pas rendu sans combattre, et c'est une réalité qui nous appartient de faire vivre pour rendre hommage et rendre honneur au sacrifice de ceux qui nous ont précédés, que ce soit ici en Eure-et-Loire, au Ville-la-Branche, que ce soit ailleurs, les cadets de Saumur sur la Loire. Nous avons des histoires dont il faut apprendre à se réapproprier et à faire en sorte qu'elles puissent également être perpétuées au travers des générations.
Cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une occupation et l'histoire aussi d'une collaboration. collaboration, résistance, résistance, collaboration, c'est ça aussi notre héritage.
Absolument, et je crois que c'était aujourd'hui le sens du sujet qui a été soumis aux élèves dans le cadre du concours national de la résistance, un sujet qui est invité finalement, et c'est le sens de ce que j'ai cherché à transmettre pendant mon discours, qui a cherché finalement à montrer qu'il y avait toujours de l'humain dans le pire et du pire dans l'humain, que l'histoire est complexe, qu'il faut l'assumer en tant que telle, et qu'il ne faut pas y trouver des raisons de ne pas aimer notre pays, mais au contraire d'apprendre à connaître son histoire et apprendre à connaître, à savoir ce que peut faire notre pays lorsqu'il est uni, rassemblé autour d'un idéal, en l'occurrence celui de la résistance.
Aujourd'hui vous êtes sous-préfet, mais vous avez été aussi un des participants au concours national de la résistance. C'était il y a combien d'années?
C'était il y a une petite dizaine d'années. J'ai aujourd'hui 26 ans, c'était quand j'avais 15 ans, 16 ans, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas le même talent que nos lycéens Aureliens, puisque je n'ai pas été primé malheureusement. Mais en tout cas, j'y attache un prix tout particulier.
Enfin, sous-préfet de 26 ans, quand même, ça va. Hein.
Ça va, je me suis rattrapé ailleurs.
Oui. Comment ça, vous êtes... Je déborde un peu du sujet, mais comment vous avez décidé d'embrasser cette carrière?
Alors pour moi, c'est un attachement profond, je dirais, à la représentation de l'État. Pour moi, l'État, on a un peu coutume en France, finalement, de le critiquer, etc. Mais je crois que même dans les critiques de l'État, il y a au fond un besoin renouvelé de choses publiques, d'actions publiques, dont moi, par mon parcours personnel, par mes origines, j'ai pu bénéficier. Et donc, contribuer à entretenir, je dirais, cette importance de l'État pour les Français, déployer des politiques publiques au plus près du terrain, pas simplement à Paris, mais aussi dans d'autres régions. Mon premier poste ici en Eure-et-Loir, quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, j'ai je crois, le service public chevillé au corps. Et c'est moi, en tout cas, ce qui m'anime dans le département et dans les missions que j'occupe.
Une dernière question. Vous avez souligné aussi l'héritage politique de la résistance à travers le programme du Conseil national de la résistance. Donc, faut pas
l'oublier, ça. Absolument. Et en particulier pour évoquer le fait que des familles politiques de sensibilité extrêmement différentes se soient réunies pour, au fond, jeter les bases du modèle social et politique français tel qu'il sera appliqué pendant des dizaines d'années, à mon sens, est révélateur de la force de notre pays lorsqu'il est uni, lorsqu'il se relève, lorsqu'il passe au-delà de ses divisions. Et c'est à mon sens le message principal aussi du concours national de la résistance, c'est de montrer que dans cette union et dans cette lutte contre, pour le coup, l'ennemi allemand, on a su trouver en nous-mêmes les ressources de recréer un modèle qui était à bout de souffle auparavant.
C'était Yanis Bouzard, directeur de cabinet du préfet. Voilà, cette édition de L'État, c'est vous se termine. Nous avons désormais rendez-vous en septembre pour la prochaine édition, l'édition de rentrée. D'ici là, vous avez de longs mois à passer en compagnie des animateurs de Radio Grand Ciel pour une grille estivale aérée, musicale bien sûr aussi, mais avec des émissions extrêmement intéressantes, des émissions de fond comme vous avez l'habitude d'en entendre tous les jours sur Radio Grand Ciel. À très bientôt.
Moi je sais qu'un jour t'iras sur les kayaks de l'Alaska rejoindre les chercheurs d'or, Jack London du Mackenzie. Moi je sais qu'un jour t'iras sous les pavés de Manhattan chevaux de Geronimo remontaient la 5e avenue. Moi je sais, un jour tu iras dans ce train qui mène à Pékin. Tu embrasseras cet homme jaune dans un couloir du Transsibérien. Moi je sais, un jour tu iras sur les pirogues de l'Afrique. Tu rencontreras un serpent recouvert de plumes magiques. Moi je sais, un jour tu iras avec ce type plus beau.